Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient dans un instant, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères, pour décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien c'est simple, appelez-nous, un seul numéro de téléphone, 09 693 693 70, 33 9 693 693 70, si vous êtes à l'étranger. Vous nous envoyez également vos questions par courrier électronique ou bien par les réseaux sociaux, sans oublier, c'est important, un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler et que vous puissiez être avec nous et nous poser donc en direct vos questions sur l'antenne d'RFI. Dans 30 minutes, nous parlerons du Bénin avec cette question qui est dans tous les esprits. Quand se tiendront les élections municipales? Initialement, elles auraient dû avoir lieu en mars 2013, il y a maintenant plus de 18 mois, et à ce jour, eh bien, aucune nouvelle date n'a été annoncée. Du coup, l'opposition se mobilise. La semaine dernière, deux manifestations ont été organisées. En tout cas, pour justifier ces reports, les autorités invoquent un retard dans la mise en place de la liste électorale informatisée, la fameuse LEPI, un retard qui inquiète d'autant plus que dans 3 mois doivent se tenir les élections législatives. Alors, comment surmonter ce problème des listes informatisées? Êtes-vous également confronté dans votre pays à cette question? Bref, comment sortir de l'impasse électorale au Bénin? Nous en parlerons, vos réactions, vos commentaires, 33 9 693 693 70. Vos questions donc à la rédaction. Nicolas Falaise du service international est déjà à mes côtés. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir ce matin car on a des questions concernant les élections législatives anticipées en Israël. Bonjour Sylvain.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Lomé, vous êtes au Togo, on vous écoute.
Tout à fait. J'ai 3 questions sur la dissolution du Parlement israélien. La première, pourquoi le Premier ministre israélien a-t-il décidé de dissoudre le Parlement? La seconde,
allez-y.
Quelles sont les forces en présence pour les élections prochaines?
Alors, on va déjà, si vous le permettez, Sylvain, répondre à ces deux premières questions. Nicolas Falaise, les élections législatives qui ont été fixées donc au 17 mars, soit 3 ans avant la fin de la législature. Pourquoi les députés israéliens ont-ils voté la dissolution du Parlement la semaine dernière?
Avant ce vote de dissolution, c'est une initiative, effectivement, du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a limogé 2 de ses ministres, qui sont aussi des chefs de parti et qui étaient des piliers de sa coalition du côté de l'aile centrale. Triste de sa coalition de gouvernement. Le contexte était celui d'une coalition agitée, remuante. Il y avait plusieurs sujets de mécontentement et de tension. L'un d'entre eux était, on en a déjà parlé ici, le fameux projet de loi censé renforcer le caractère juif de l'État d'Israël. Pour bien comprendre la fin de cette coalition, il faut rappeler que le système politique israélien est un système ultra-parlementaire, avec un gouvernement qui repose sur une coalition de plusieurs partis. Ce Parlement est élu à la proportionnelle intégrale. Tout ça donne des gouvernements assez instable, assez fragile. En moyenne, les gouvernements israéliens durent 2 ans et d'ailleurs, la précédente élection législative avait eu lieu en janvier 2013.
Donc, si je comprends bien, Benjamin Netanyahou a limogé 2 ministres qui allaient un peu à l'encontre de sa politique et de ses projets. Lui-même a dit, je ne peux plus continuer à gouverner ainsi, d'où la dissolution des élections, donc, dans 4 mois maintenant. Benjamin Netanyahou va évidemment vouloir briguer un 4e mandat, c'est ce qu'il vise. Quelles sont les forces politiques en présence aujourd'hui?
Alors, rapidement, le Likoud de Benjamin Netanyahou, parti nationaliste de droite, de plus en plus marqué à droite au cours de ces dernières années. 2 partis situés encore plus à droite, Abayt HaYehoudi, la Maison Juive, parti nationaliste religieux, le parti des colons pour faire simple, fervent partisan de la colonisation des territoires occupés. Et un autre parti marqué à droite, Israël Beitenu, ultranationaliste, très implanté dans l'électorat russophone. Ça, c'est du classique. Ce qui est nouveau dans le paysage politique, c'est une toute nouvelle alliance de centre-centre-gauche avec le Parti travailliste, qui jusqu'à présent se trouve dans l'opposition, et le petit parti de Tzipi Livni, Atnoua, ce dernier petit parti participait à la coalition sortante. On citera aussi Yesh Atid, parti centriste laïque, qui était arrivé en deuxième position lors des précédentes législatives, avec à sa tête Yair Lapid, qui était ministre des Finances, l'un des ministres frondeurs dont le limogeage a provoqué ces élections anticipées. Et puis en bref, on citera comme toujours des partis importants dans le paysage politique israélien, les partis ultra-orthodoxes religieux qui peuvent entrer dans une éventuelle future coalition.
Ouais, en tout cas, le scrutin du 17 mars risque de se transformer en référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou. Sylva, vous aviez donc une dernière question?
Tout à fait, Juan. J'aimerais savoir quelles peuvent être les relations entre Israël et la Palestine à l'issue de ces élections.
Alors, Nicolas Falaise, les répercussions, les conséquences, en fonction évidemment de la coalition et des alliances qui, et de l'alliance qui remportera le scrutin du 17 mars.
Absolument, hein, puisque la dissolution n'a pas eu lieu sur ce thème. Mmh. La campagne électorale n'aura vraisemblablement pas lieu sur cette thématique unique. En revanche, oui, la coalition qui sortira des urnes pourrait avoir des options très divergentes concernant le processus de paix et la relation avec les Palestiniens. Une coalition marquée à droite comme la coalition sortante, ou encore plus marqué à droite, n'offrira aucune perspective de reprise des négociations. Scénario moins probable, si une dynamique se forme au centre et à gauche, avec l'alliance dont on parlait tout à l'heure autour des travaillistes et du parti de Tzipi Livni, alors on pourrait avoir un scénario différent. Chaque élection israélienne réserve sa dose de surprise, on suivra ça bien sûr.
Avec vous notamment, et nos envoyés spéciaux, notre correspondante sur place. Merci Nicolas Falaise. Sylva, bonne journée. À Lomé, 33 9 693 693 70. Souleyman est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Dakar, vous êtes au Sénégal et vous avez des questions concernant Angela Merkel.
Oui, effectivement Juan, j'avais deux questions relatives en fait à Angela Merkel. La première question, c'est de savoir pourquoi Angela Merkel n'a pas de rivaux potentiels dans son parti. Et en fait, la deuxième question, qu'est-ce qui explique sa cote de popularité au niveau de son parti.
Oui, cote de popularité incroyable. Elle a été réélue à la tête de la CDU la semaine dernière avec près de 97% des voix. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Souleymane.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Cela fait 15 ans qu'Angela Merkel occupe ce poste à la tête de la CDU. Et effectivement, comme le dit Souleymane, on a vraiment l'impression qu'elle n'a pas de concurrence au sein de son parti.
Effectivement, c'est le cas. D'abord, on peut l'expliquer d'abord pour une raison pratique. Comment est-ce qu'un concurrent pourrait s'imposer face à une présidente de parti et une chancelière qui est aussi populaire? Alors bien sûr, il y a quelques petits bémols. Il y a eu en amont du congrès de la semaine dernière des critiques des plus jeunes, notamment contre les réformes des retraites qui se feraient d'après eux sur leur dos, et également des critiques contre l'aile libérale de la CDU, qui trouve qu'on a fait ces derniers 12 mois un peu trop de cadeaux sociaux, entre guillemets, notamment des mesures prônées par les sociodémocrates alliés des chrétiens-démocrates au sein de la grande coalition. Et puis ensuite, il faut dire que les concurrents potentiels, il n'y en a pas beaucoup. Un certain nombre de personnes qui auraient pu faire de l'ombre à Angela Merkel ont disparu, plus ou moins, de la scène politique, soit parce qu'ils ont été engloutis par des scandales, ou bien parce que Angela Merkel les a plus ou moins mis sur la touche.
Mmh. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Quand vous dites qu'ils ont disparu, est-ce qu'elle n'a pas tout fait justement pour chasser, écarter tous ses rivaux potentiels? Donc c'est plutôt ça.
C'est vrai qu'elle a aussi parfois joué un rôle. C'est vrai qu'aussi certains, encore une fois, ont été, on se rappelle, les scandales qui ont frappé certains pour accuser d'avoir de plagiat lors de l'écriture de leur thèse, etc. Donc certains ont disparu de la scène politique et Angela Merkel domine incontestablement ce parti. La seule qui aujourd'hui pourrait, non pas lui faire concurrence, mais peut-être être un successeur potentiel, c'est la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, mais qui a deux problèmes. D'abord, elle n'est pas si populaire que cela au sein de son parti. Elle n'a obtenu que 70% lors de sa réélection la semaine dernière lors du congrès. Et puis, elle est ministre de la Défense et elle doit se coltiner, entre guillemets, la réforme de la Bundeswehr, qui est une tâche colossale avec un grand K. Et c'est seulement si elle y parvient qu'elle pourra avoir une chance de, un jour, de succéder à Angela Merkel.
Alors, Angela Merkel, populaire, populaire au sein de son parti, mais c'est aussi la chef de, du gouvernement, peut-être la plus populaire de l'histoire d'Allemagne. Un dernier sondage, la crédite de 67-70% d'opinion favorable.
Oui, effectivement, et les sondages sont quasiment, depuis qu'elle est arrivée à la chancellerie il y a 9 ans, stables. Elle a toujours obtenu des excellents sondages en matière de popularité, même si parfois son parti a été a obtenu des succès, des résultats moins importants dans les sondages. Alors aujourd'hui, on peut expliquer cette popularité par deux effets majeurs. D'abord, les résultats économiques de l'Allemagne qui sont satisfaisants et qui font que les électeurs n'ont pas de raison d'être insatisfaits. Le chômage qui reste à un niveau bas,
moins de 5%.
Comparé aux autres économies européennes, un budget qui l'année prochaine sera à l'équilibre, les excédents commerciaux, les sondages montrent que les Allemands sont plutôt optimistes quant à leur avenir. Et puis, autre facteur important, sans doute la personnalité d'Angela Merkel, dont le surnom Mutti Maman est un petit, elle montre qu'elle fait un peu figure de personnalité un peu qui protège les Allemands. Ils estiment que même s'il y a des petits problèmes qui peuvent apparaître à l'horizon, eh bien, Mutti nous sortira du pétrin, et puis sans doute son côté modeste et simple, qui plaît sans doute aussi, et puis aussi, il faut le rappeler, le fait l'Allemagne est gouvernée depuis un an par une grande coalition gauche-droite, donc les sociodémocrates qui ont tout de même pu depuis un an faire passer pas mal de leurs propositions, avec la proposition phare, le salaire minimum, qui entrera en vigueur le 1er janvier, ils n'ont pas de raison d'être non plus insatisfaits.
Merci beaucoup Pascal Thibault, correspondant d'RFI à Berlin. Que vous inspire la popularité de la chancelière allemande? Si ça ne vous laisse pas indifférent, appelez-nous, on aura certainement l'occasion d'en parler vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi vous commentez tous les sujets dans l'actualité qui vous marquent à travers le monde. 33 9 693 693 70. Véronique Guémard du service international. Bonjour Véronique.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Des questions concernant le rapport du Sénat américain sur les tortures infligé par la CIA aux détenus de Guantanamo. Vivien nous appelle d'Angola. Bonjour Vivien.
Bonjour Juan.
Vous êtes dans la capitale angolaise, à Luanda. On vous écoute.
Oui, je vais juste poser des questions sur les rapports du Sénat américain qui condamne les tortures pratiquées par la CIA lors du gouvernement républicain au moment où ce rapport est publié lors du gouvernement démocrate. Alors, je veux juste savoir, Il y a des enjeux partisans derrière la publication de ces rapports.
Ah, y a-t-il des enjeux partisans derrière la publication de ce rapport? Véronique Guémard, c'est un document qui, rappelons-le, décrit comment les détenus ont été attachés pour certains pendant plusieurs jours, dans l'obscurité, plongés dans des bains glacés, privés de sommeil pendant une semaine. Y a-t-il des arrière-pensées politiques?
Non, pas spécialement, pas d'enjeux vraiment partisans sur cette question, même si on peut dire que dans le camp républicain, plusieurs sénateurs et députés ont affiché leur soutien aux méthodes d'interrogatoire musclé, comme ils les appels, évitant soigneusement d'ailleurs de parler de torture. Alors c'est vrai que la fermeture de Guantanamo quand même et l'arrêt des méthodes pratiquées pendant les années de l'administration Bush dans ce qu'il a appelé la guerre contre le terrorisme étaient des promesses de campagne de Barack Obama. Donc effectivement, il y a quand même une promesse démocrate derrière l'arrêt de ces pratiques. On se souvient que dans les 48 heures de sa prise de fonction en janvier 2009, Obama avait signé un décret ordonnant la fermeture de Guantanamo dès que possible et au plus tard dans un an, c'est toujours pas fait, et de mettre un terme à ce qui a été décrit comme des techniques d'interrogatoire musclé, en clair la torture. Et c'était très exactement le 22 janvier 2009 dans le bureau ovale. Et il était entouré d'une trentaine de généraux. Et un autre décret donc stipulait que la CIA devait fermer tout centre de détention à l'étranger et qu'elle n'en aurait donc désormais plus à l'avenir, en référence notamment au fameux site noir de la CIA, comme il y en a eu par exemple en Pologne. Alors Guantanamo, effectivement, n'est pas fermé. Obama continue à faire face à une forte opposition au sein du Congrès, d'autant plus maintenant que la majorité au Sénat est désormais républicaine. Alors Obama avait condamné publiquement l'utilisation de la torture. Il a explicitement dit que le waterboarding, donc le supplice de la baignoire, était de la torture, une pratique interdite par décret en janvier 2009. Mais au cours des dernières années, sous son administration, lors des grèves de la faim à Guantanamo par exemple,
on s'en souvient,
des détenus ont été nourris de force et ça a été décrit comme une sorte de torture. Plusieurs organisations de droits de l'homme disent que effectivement la question n'est pas encore totalement terminée.
Vivien, vous aviez une autre question?
Oui, j'ai une autre question. Et la publication de ces rapports pourrait-il déboucher sur une poursuite judiciaire.
Ah, ça c'est une question effectivement délicate, puisque des voix réclament justice contre la CIA, Véronique.
Oui, mais il n'y aura sans doute rien, parce que le ministère de la Justice a déclaré qu'aucune poursuite ne serait engagée malgré ce rapport, donc les choses sont claires. Pas assez de preuves, selon ce ministère de la Justice. Au Congrès, alors, les représentants étaient divisés entre ceux qui n'étaient pas convaincus que ce rapport devait sortir, ceux qui trouvaient pas opportun qu'il soit diffusé, ceux qui souhaitaient que des poursuites soient engagées, disaient qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'ils se casseraient les dents, et en clair que les plaintes n'aboutiraient pas. Alors, effectivement, plusieurs organisations de droits de l'homme ont demandé que des poursuites soient engagées, parce que elles estiment que les actes de torture qui ont été commis sont des crimes. Et donc, il faut que les responsables soient poursuivis. C'est ce que demande aussi le rapporteur spécial de l'ONU contre le terrorisme, Ben Emmerson. Selon lui, le procureur fédéral a même une obligation légale, connaissant les éléments du dossier, de poursuivre les responsables devant la justice. Et l'ACLU, hein, donc la puissante organisation de Union américaine donc des libertés civiles, pour les libertés civiles, a demandé à Obama de désigner un procureur spécial pour juger les hauts responsables et ceux qui ont tenté de camoufler ces actes de torture. Alors ça a été le cas en 2009, je vous dis très rapidement. John Durham avait été nommé procureur spécial par le ministre de la Justice, Eric Holder, pour mener deux enquêtes sur des allégations de mauvais traitement sur des prisonniers détenus par les Américains après les attaques du 11 septembre, mais il n'y avait pas eu de poursuite car le ministère de la Justice avait estimé que les preuves étaient insuffisantes, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant, le ministère de la les responsables politiques, eux, renvoient vers le ministère de la Justice. Celui-ci dit on ne peut pas poursuivre, pas assez de preuves, et l'exécutif passe son temps à dire ok, on a fait notre mea culpa, c'est très mal ce que nous avons fait, maintenant il faut aller de l'avant, on ne recommencera plus, c'est promis.
À suivre donc.
À suivre donc, mais ce qui reste quand même, c'est la justice universelle, et beaucoup d'organisations de droits de l'homme demandent que cette justice, ce principe de compétence universelle soit mis en œuvre, comme ce qui s'est passé pour Pinochet, qui avait été arrêté à Londres, on s'en souvient, en 1998.
Mais qui avait été libéré par la suite.
Par la suite.
Merci beaucoup Véronique Guémard pour toutes ces explications. Vivin, bonne journée à Luanda en Angola. 33 9 693 693 70. Augustin, bonjour.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour, les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes en Guinée et vous avez des questions sur les violences policières aux États-Unis.
Évidemment. J'interviens pour poser des questions par rapport à la brûlante actualité ces derniers temps de racisme aux États-Unis. Alors, mes questions sont les suivantes. En parallèle du discours récemment tenu par Obama, c'était de savoir si le racisme est enraciné réellement dans la société américaine. Et connaître les statistiques des Noirs tués par balle par la police des États-Unis.
Ah, Harim Lipold, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Augustin.
Effectivement, bonjour Barack Obama a dit récemment que le racisme était enraciné dans la société américaine.
Oui, il est pas le seul à... Oui, bien sûr, il a raison. On peut aussi citer Bill de Blasio, le maire de New York, marié à une afro-américaine, et qui a dit, je le cite, « Les bavures policières récentes prennent leurs racines dans des siècles de racisme dans le pays. » Il faut bien sûr parler de l'héritage de l'esclavage, de la ségrégation, qui a pris fin seulement il y a 50 ans. Rappelez-vous avec le Civil Rights Act en 54, qui a mis fin à la discrimination. La discrimination est devenue illégale, mais elle continue à exister sous d'autres formes. Donc oui, le racisme est profondément enraciné, et surtout dans les États du Vieux Sud, hein, comme on dit.
Ouais. On a des statistiques récentes concernant les personnes noires tuées
par
balle.
C'est très, très, très difficile, Juan, d'avoir des chiffres, parce que les commissariats de police, les 17 000 commissariats de police, ne communiquent pas sur les bavures. On estime qu'il y a à peu près 400 personnes tuées par la police tous les ans. Ouais. Et il y a des enquêtes menées par des médias new-yorkaises qui relèvent que sur 179 personnes tuées au cours des 15 dernières années, eh bien 86% étaient des Noirs ou des Latinos.
86%.
Il faut dire que les Afro-Américains représentent seulement 13% de la population américaine.
On va continuer à en reparler juste après le journal. Ce sera dans 10 minutes.